sujet de discussion. On a, c'est pas très très long, on a une heure et quart, ça peut paraître long, mais j'ose espérer que ce ne le soit pas. Le but, c'est que vous puissiez avoir des petites choses pendant ce temps-là et que vous puissiez vous dire, putain, mais moi, j'en suis capable. Moi, je sens que je peux faire ça. Ok, ben, ça, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que je peux faire après? Vous voyez, essayez d'amorcer quand même une discussion. Je voulais juste savoir comment, avec le recul, parce que c'est finalement une génération, votre génération, je la découvre, hein, même si je reste dans le milieu de la natation, le très haut niveau, je m'en suis petit à petit retiré, humblement, pour laisser la place aux entraîneurs, au staff, etc., de faire des choses. Je suis impliqué avec mon club à Antibes, avec la fédération où je suis élu au comité directeur, pour essayer de réfléchir sur des stratégies de développement, dont cette action qui fait partie aujourd'hui, mais qui a été réfléchie il y a déjà 4-5 ans. Voilà, c'est ma façon d'apporter cette transmission. Je voulais juste savoir comment vous, vous me percevez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai mis en place à un moment donné dans ma carrière pour réussir à concrétiser tous ces efforts et finalement, est-ce que vous savez à quel âge j'ai performé, on va dire, j'ai réussi à concrétiser tout ça, pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. À quel âge j'ai réussi à concrétiser tout ça, d'après vous?
24, 25.
Et je m'entraînais deux fois par jour depuis quel âge, à peu près?
16 ans. Enfin, depuis ta saison.
Depuis 15 ans, ouais. Donc, de 15 ans à 24-25 ans, voilà, je vous laisse faire un calcul. C'est deux fois par jour, tous les jours, tout le temps, tout le rythme que vous avez actuellement. Et pourquoi j'ai mis 10 ans à concrétiser tout ça? D'après vous. Allez-y, hein, y a pas de langue de bois. Moi.
Parce qu'au début, on nage sans objectif et après...
Au début, on sait pas trop pourquoi on nage.
Ouais.
Ça vous est déjà arrivé?
Ouais, complètement.
Complètement. D'accord.
Au début. C'est tout pour les copains au début.
Ouais, voilà, c'est pour l'ambiance. T'es content, tu te retrouves après les cours, t'es content de partir en week-end, de rater aussi l'école quand tu pars sur des championnats, des choses comme ça. Tu dis, bon, ben, ça c'est sympa aussi. On l'a tous été. Mais qu'est-ce qui vous plaît le plus en nageant? Déjà, pourquoi vous nagez? Est-ce que vous savez pourquoi vous nagez? Il y a quand même des choses plus rigolotes à faire dans la vie, quoi.
La compétition.
C'est ça qui vous anime?
Ouais, ouais.
C'est quoi? C'est à quel moment dans la compétition?
Enfin, tout ce qui végète autour de la compétition, le fait de se retrouver avec tous nos concurrents, de se préparer pour la compétition.
Être le plus fort, en fait.
Ouais, voilà.
Vous voulez être le meilleur?
Ouais.
Vous voulez être le meilleur de vous-même ou le meilleur par rapport aux autres?
Les deux.
Ouais, les deux. Ouais.
Et c'est quoi la priorité d'après vous?
Les autres.
Ah. Ouais, qui pense qu'il faut être le meilleur de soi-même et qui pense qu'il faut être le meilleur par rapport aux autres? Le meilleur de soi-même.
Ah, de soi-même, non.
D'accord. Et le meilleur par rapport aux autres? Pas grave, il n'y a pas. C'est ni noir ni blanc. Hein. C'est juste une question de. Par rapport aux autres. Vous avez quelque chose à prouver?
Bah, c'est cool de les battre.
C'est cool de les battre?
Bah ouais. Ça rajoute.
Parce que être le meilleur de soi-même, ça ne voudra pas forcément dire qu'on est le meilleur au monde. Alors qu'être meilleur que tous les autres, ça veut forcément dire qu'on est le premier.
Ça dépend des objectifs qu'on a.
C'est ça? Ça dépend des objectifs.
Ouais, non, si on a un objectif d'être le meilleur, être le meilleur de soi-même, ça veut pas forcément dire qu'on sera.
Mais il faut que cet objectif il soit en cohérence avec ton niveau de performance. Je vais souvent revenir sur mon parcours, mais si à 15 ans je rêvais d'être le meilleur du monde, c'était quelque chose qui était impensable. Je pense que j'aurais très vite baissé les bras. Et à 17 ans, et à 19 ans, et à 20 ans. J'aurais baissé les bras parce que je me suis dit, mais. En fait, quand j'ai 21 ans, quand je rate ma qualif pour Athènes, il y a Fabien Gillot qui se qualifie. Et Fabien, il a un an de moins que moi. Je me dis, mais ce mec, il nage déjà 49 secondes. Et moi, j'ai du mal à nager un peu moins de 51. J'ai un an, deux ans de plus que lui. Qu'est-ce que je vais faire, quoi, en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour battre ce gars, quoi? Tu vois, et t'as tendance aussi, des fois, à te réduire ou te diminuer, alors que finalement, en fait, t'as pas exploité pleinement ton potentiel. Il faut être convaincu qu'au fond de vous, vous pouvez faire toujours mieux. Ben, j'espère que c'est ça qui vous anime aussi. Ça peut être mieux techniquement, qui va découler sur une meilleure perf chronométrique, faut que vous soyez convaincu que vous pouvez faire mieux. Je sais pas si vous... Enfin oui, vous vous réalisez, mais il y a un garçon qui nageait à côté de vous hier, là, Romanchuk, je pense que vous le connaissez tous, oui ou non. C'est complètement atypique ce qu'il fait comme travail, vous êtes d'accord? Vous faites des 400, des 75, des 25, des jambes, des trucs, et le mec, pendant 2h30, il nage à 23 coups de bras. Il nage à 23 coups de bras, mais il fait pas deux fois deux mauvais mouvements, en fait. Ça interpelle, ça, non? Enfin, je veux dire, même moi qui avais... J'ai fait des entraînements comme vous, des chronos, des trucs, etc. Je pense que si j'avais vu ce gars à côté, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? Donc, à un moment donné, il a sûrement dû faire des séries, des chronos, des trucs comme ça. Mais en tout cas, ça interpelle. Qu'est-ce qui interpelle sur cette seule séance que j'ai vue à côté de lui? C'est qu'il ne fait pas deux mauvais mouvements, en fait. Et en vous regardant nager, c'est pas que vous nagez bien, vous nagez mal, etc. Je suis convaincu que vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez faire... Est-ce que vous êtes convaincu que vous pouvez faire mieux que ce que vous faites entraînement après entraînement? Quand même, il y a des choses très bien. Je dénonce personne. Il y a des chronos, des trucs. Il y a l'attitude. Il y a la semaine passée d'entraînement dans les bras qui n'est pas la même pour tout le monde. Mais est-ce que vous sentez que vous êtes capable de faire mieux techniquement sur chaque mouvement? Est-ce que vous ressentez déjà cette capacité ou cette marge de progression?
Oui. On peut toujours faire mieux.
Pas toujours?
On peut toujours faire mieux.
Tu peux toujours faire mieux, mais est-ce que tu le ressens toujours?
Ah non.
T'es d'accord que des fois sur les entraînements, tu sens moins qu'un autre entraînement?
Ouais.
Est-ce que vous y pensez à ça?
Sur le coup, on est dans la série, donc... On se dit, ok, on rentre dans les temps de départ, on doit faire ce tel temps et c'est bon.
Donc la priorité, c'est le chrono?
Ouais, c'est souvent ça qu'on a en tête.
Et c'est quoi le chrono? Le chrono, c'est juste une conséquence d'une série d'actions que tu mets en place. T'es d'accord? Pour nager une 5 ou 55, tu vas pas t'y prendre de la même façon. Tu vas pouvoir nager 55 à deux fois 25 ou 27 mouvements. Et par contre, si tu essaies de nager la minute à 25 mouvements et ou 55 à 25 mouvements, tu es d'accord que c'est un autre sport, quoi. Il faut que vous soyez capable de tendre vers ça, vers cette recherche d'excellence, de perfection et de... Alors, attention, parce que ça peut être aussi vicieux à vouloir être trop... trop pointilleux et rechercher trop la perfection, etc. On peut tomber dans un truc où on est en cours après quelque chose qu'on n'a jamais, en fait. Ça, je l'ai expérimenté parce que j'étais tellement pointilleux sur chaque chose que je sortais des entraînements en me disant, ça j'aurais pu faire mieux, alors que j'ai fait une série de 10x2 ou de 20x100 qui était vraiment top, mais ce que j'ai fait un peu avant, un peu après, je suis sûr que je peux faire mieux. Et finalement, j'avais ce sentiment de déception qui pouvait s'installer, et ça c'est aussi dangereux.
Donc, inachevé.
Hein?
Inachevé un peu.
Pas inachevé, mais de pas bien fait, en fait. Tu vois, donc il faut en même temps se satisfaire des progrès que l'on fait, quels qu'ils soient, en tenant compte du contexte, se dire ok, aujourd'hui j'ai réussi à faire une série avec tant de coups de bras, avec tel chrono ce qui a été demandé, j'ai fait même mieux que ce qui était demandé. À côté de ça, j'ai fait moins bien. Il faut que vous soyez capable d'avoir de l'estime pour vous, sans pour autant dire « Ok, c'est bon, je suis meilleur, j'ai réussi à faire ça et je sais que je vais être invincible. » Vous voyez, il faut toujours se sentir en danger. Ça, c'est hyper important. Du coup, mon entraîneur, il a pour habitude de dire qu'il fallait faire la plus grande quantité de qualité. C'est quelque chose qui marque comme ça. Un jour, il me fait nager un 50. Je dis, putain, c'est super. Voilà. Maintenant que je sais que tu es capable de faire un 50 comme ça, à 25 coups de bras en 28 secondes, ou 27, ou 20, ou 30, je s'en fous, peu importe, d'avoir une modalité. Je dis, maintenant que je sais que tu es capable de faire ça sur un 50 à la fin de l'entraînement, tu vas essayer de le faire sur 100 mètres, sur 200, sur 400, sur une série entière à l'entraînement d'après. Vous voyez, ce niveau d'exigence, pour en revenir à Romanchuk qui nageait à côté de vous hier, c'est que c'est pas un hasard, quoi. Le mec, il est champion du monde, il est champion d'Europe. Je pense qu'il s'entraîne pour être champion olympique. Il s'entraîne pas pour être vice-champion olympique, il s'entraîne pour être champion olympique. c'est quand même une différence. Et ben, ça on peut le transposer à tous les niveaux de performance. Ok, je veux me qualifier sur un championnat d'Europe junior, sur un championnat du monde junior, sur un championnat d'Europe, un championnat du monde toute catégorie. Et ben, il faut que je batte un tel, il faut que je fasse ça comme chrono. Donc il faut viser encore plus haut. Ça passe par une grande concentration à l'entraînement. Vous pensez à quoi à l'entraînement ?
Coup de bras.
Que coup de bras ? Ça te traumatise un peu ou... Ça arrive à en traumatiser quoi. Oui, beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui font jamais en coup de bras ? Qui ont une autre méthode ? Est-ce que c'est un tempo ? Est-ce que c'est... Ouais. Tu fais jamais de coup de bras ?
Bah, par ici non.
D'accord. Parce que c'est quoi ?
Je fais les entraînements de pilier.
D'accord.
Donc c'est toi à fond.
Oui, mais il y a quand même une dimension technique derrière ça, quoi. Enfin, tu dois être...
Oui, mais on n'a pas... Ici, on va pas... Le coach, il va pas nous dire, il faut compter ses coups de bras, c'est nous qui devons le faire de nous-mêmes. Quoi.
D'accord. Et alors, à quoi ça sert de compter les coups de bras ?
Bah... Avoir à savoir, mais avoir des repères.
Ouais, c'est un repère. On est d'accord que les championnats du monde de coups de bras, ça n'existe pas encore. Il y en a qui seraient bien au-dessus et les niveaux ne seraient pas du tout les mêmes. Le coup de bras, c'est juste une comment dire, une méthode pour travailler sur une filière énergétique, quoi. C'est de dire, ben, tu vas nager à 23 coups de bras ou à 28, et ben, ça va pas, tu vas pas te dépenser la même force à chaque passage. Donc, ça sert à mobiliser tout ça, à avoir des repères. Ça doit pas être une fin en soi. Mais... ça ne doit pas être acceptable d'avoir une consigne de 23 coups de bras et d'en faire 25, d'en faire plus. Vous voyez ? Et ça, il y en a beaucoup qui se mentent aussi. Je me suis entraîné avec des garçons, des filles à côté de moi. Je savais très bien que moi, je faisais ça. Et eux, je savais très bien qu'ils en faisaient un ou deux de plus que ce qu'ils disaient à l'arrivée à l'entraîneur.
C'est des escrocs.
Ben, c'est des escrocs, mais ils peuvent, sur un malentendu, performer le jour J. Mais on est d'accord que si tu commences à te voiler la face comme ça, c'est pas sain en fait, c'est pas raisonnable. Donc je sais que là-dessus vous êtes pas, enfin vous êtes assez impliqué de ce qu'on m'a dit, si on m'a pas menti, vous êtes hyper assidu, donc ça c'est super. Et est-ce que vous regardez souvent les, je sais pas, est-ce que vous regardez comment nage les autres? Soit des champions, soit vos adversaires, enfin de votre âge ou pas.
Je dois aller courses.
Est-ce que vous regardez les courses?
Oui.
Quand vous regardez les courses, qu'est-ce que vous regardez?
La technique.
Lyon.
Ouais, bah, de, comment il nage quoi.
Comment il nage?
Ouais.
Est-ce que vous en inspirez?
Ouais. Oui et non. Oui.
Inspirez ou copier?
Non, inspirer.
Inspirer. Pourquoi il ne faut pas copier d'après vous?
Parce qu'une technique, c'est un
diplôme. Chacun a sa nage.
Chacun a sa technique de nage, chacun a sa morphologie. Je pense qu'on l'a tous fait. T'as vu un gars nager les bras tendus, tu dis bon, je vais essayer les bras tendus au moins sur un super entraînement.
Bah,
hein?
Bah oui.
Oui. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut marcher?
Ça dépend.
Ça peut.
Sur 25
mètres. Il y a quoi d'autre comme point technique par exemple que vous pouvez regarder?
Les coulées. Ouais.
Les coulées. Sur quoi? L'amplitude, la longueur, d'accord, ça c'est assez facile à voir, mais quoi dans la coulée? Qu'est-ce qu'on peut regarder dans la coulée?
La mobilité.
La mobilité, est-ce que c'est tout le corps qui bouge ou que le bas, etc. Il y a un extraterrestre qui est arrivé et tout le monde pensait que les ondulations, il fallait faire avec le haut du corps fixe et lui, il bouge tout le haut du corps. Enfin, je sais pas, Dressel, vous avez vu ?
Ah bah oui.
C'est un truc de dingue, ça donne matière à réfléchir quand même. Comme quoi, on travaille des années sur des idées reçues en disant, ok, la coulée, en fait, il faut être bien statique en haut et il faut avoir une grande amplitude, explosivité. Et puis, t'as un mec qui arrive et qui fait ça. Donc, est-ce que tu peux copier un mec comme Phelps?
Oui,
non.
On n'a pas le même physique.
Voilà. Est-ce que tu peux t'en inspirer?
Oui. Ouais, c'est le boss.
Ça c'est, je pense que c'est assez important de pouvoir s'en inspirer. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'ai regardé comment nager un tel, comment nager l'autre. Donc, à mon époque, c'est des nageurs que vous. Peut-être vous n'avez pas entendu parler, à part Peter van den Hogenband, VDH, qui était recordman du monde et double champion olympique 2000-2004. C'était le premier nageur à nager moins de 48. Et lui, je voyais nager, il respirait avec la tête vachement à plat. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose, que c'est un nageur de 100-200 mètres. Au 50, il se débrouillait pas mal aussi, mais il avait la tête vachement à plat et le regard vers l'avant, quoi. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de refaire comme lui. Et puis un autre gars qui nageait, Stéphane Mistrand, qui est un nageur suédois, quelques mois avant les Jeux en 2008, il nage moins de 48 secondes aussi à l'Open de France. Alors que le mec, il nageait bras tendu, mais un truc de dingue, je me disais. Mais en même temps, il avait un relâchement dans ses mouvements. Du coup, c'est parmi deux exemples, grosso modo, que j'ai essayé de m'inspirer d'eux et de me dire, mais il ne faut pas que je fasse comme lui. Il faut juste que je regarde sa capacité à nager relâché, bras tendu, pour essayer quand même d'avoir... S'il fait ça et qu'il nage vite, c'est qu'il y a forcément quelque chose d'efficace derrière. Donc moi, ça a été ma façon de m'approprier, entre guillemets, sur ces deux nageurs en particulier, de m'approprier leur technique ou leur façon de nager pour la transposer sur ma morphologie, parce que, bien sûr, bras tendu, j'étais tellement raide que c'était impensable de faire bras tendu comme lui. Néanmoins, je suis convaincu que ça m'a servi parce que je me suis approprié ces choses. Et je ne me suis pas dit, il faut à tout prix faire comme eux. Vous voyez, c'est important d'être... Et aujourd'hui, vous avez accès quand même à des vidéos, à des vidéos d'entraînement, de course, etc. hyper facilement. Donc, servez-vous-en. Servez-vous-en. Je ne sais pas si dans vos clubs, il y a de l'analyse vidéo. Est-ce qu'on vous en fait souvent? Est-ce que vous apprenez de ça ou pas? Bon, j'essaie de prendre à la fédération pour qu'on ait de plus en plus de choses comme ça, mais les moyens sont assez, des fois, compliqués à mettre en place. Mais qui est-ce qui a jamais fait de vidéo, par exemple, d'analyse vidéo? Donc, vous avez tous fait au moins une fois d'analyse vidéo. C'est avec vos coachs, avec la fédé. Est-ce que vous en faites dans vos clubs?
Ouais, un peu.
Donc, et comment ça se passe?
Hein, le flume de Tenerife.
Le flume de Tenerife. On envoie des choses au flume de Tenerife.
C'est incroyable. Hein, c'est incroyable ça.
C'est incroyable. C'est quoi qui est incroyable?
Et le fait de nager sur place.
D'accord.
Et d'avoir une vidéo sous tous les angles. Là devant, derrière, en dessous.
Alors nager sur place, ça c'est relatif. Et ça a été mon gros point de discordance avec Denis, mon entraîneur, parce qu'il me disait, ouais, mais on sait pas parce que vous nagez sur place. Mais en fait, on nage sur place parce qu'il y a un déplacement d'eau. Et puis, la force du flume, en fait, c'est que c'est hyper homogène, en fait. Ouais. Ce flume-là, il est très performant parce que tu as toute une masse d'eau qui se déplace et tu n'as pas trois gros tuyaux comme ça. Et finalement, l'eau, c'est assez... On dit que c'est laminaire, en fait, que c'est continu. J'ai dit, mais de toute façon, qu'il y ait une action-réaction, l'eau, elle se déplace. Donc, si nous, on reste sur place, ça veut dire qu'on applique de la force. Est-ce que tu as vu des défauts que tu t'attendais pas, par exemple, toi?
Oui.
Comme quoi?
C'était le placement des mains.
Le placement?
Ouais.
C'était quoi? Trop sur le côté? Trop...
Peut-être pas assez à la surface, pas assez à la fin du mouvement, par exemple. Plein de trucs comme ça où que tu délaisses forcément vite à l'entraînement quand on te le dit pas.
C'est quand même fou, parce que vous faites des milliers, pour pas dire des millions de mouvements, sur tu reprends une année ou deux ans ou cinq ans d'entraînement que tu fais, Et que tu n'arrives pas à ressentir si ta main elle est dessus, dessous, à droite, à gauche quand même. C'est fou quand même de se dire ça. Enfin, et puis c'est le cas pour tout le monde, c'est pas du tout sur ton cas en particulier, mais moi j'ai ressenti exactement la même chose. Je me suis dit, mais attends, ma tête elle est si relevée que ça, et ma main, je pensais qu'elle glissait à la surface, et bien, elle est 20 cm en dessous, donc ça veut dire que mon bras il n'est pas parallèle à la surface, donc ça veut dire que je crée une résistance ici. Et tu vois, ça remet beaucoup de choses en cause quand même. Et ça, comment vous avez le moyen de ressentir tous les jours à l'entraînement?
Avec la glisse.
En étant concentré.
Hein? Oui, tu es concentré sur ton mouvement, mais t'as beau être concentré. Est-ce que ta main, quand tu regardes en bas, tu sais si elle est là, là ou là? Tu vois, enfin, sur un petit carré de 10 cm, en fait, tu vas pas dans la même direction. Donc, avec cette habitude-là, et surtout où des fois on crée des déséquilibres quand on respire, on a le bras qui s'écarte, etc. Encore pire, en fait, si tu as un mauvais retour aérien, tu peux avoir des tendinites avec des épaules comme ça. Comment est-ce que tu peux savoir si ton bras est bien placé? Parce que, ok, on parle de sport, de natation, sport individuel.
C'est les sensations.
Et vous n'êtes pas seul dans l'eau.
C'est les coachs.
Voilà. Vos entraîneurs, ils ont un rôle hyper important là-dedans. Je ne sais pas quelles sont vos relations respectives avec vos entraîneurs, et ça me regarde pas plus que ça, mais est-ce que vous arrivez, selon vous, à communiquer comme vous voulez avec votre entraîneur. Oui. Oui. Pour vous, ça vous correspond. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à communiquer avec leur entraîneur? C'est pas grave, c'est pas... C'est, si oui, c'est juste pour essayer de comprendre pourquoi... Ah, Philippe, c'est normal. C'est qui ton entraîneur, déjà?
Philippe. Xavier Hidou.
Ah
non,
Philippe. Ah oui.
En fait, c'est la méthode Philippe, donc c'est un peu... Tu nages, et même si t'es mort, bah c'est pas grave.
Tu nages.
T'es pas mort parce que t'es encore
dur,
vivant.
Ça, ouais.
Mais combien de fois on a dit on est mort, on a mal au bras, on n'en peut plus, on est tous, tout le monde.
Hein? Sur les timides, tu tiens même pas la moitié.
Ouais.
C'est qu'un truc.
Je sais. Voilà. Et quand tu, ça enchaîne pendant 3 ou 4 semaines, que t'as un niveau de performance qui est par exemple, on va dire, habituellement, tu nages une série de 100 mètres à 1-2 et que là, tu n'arrives pas à faire moins d'une 4 ou une 6. Tu crois que c'est pas rageant?
Si.
Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais est-ce que ce qui compte, là où je voulais revenir, c'est sur ma période en 2004 où je rate ma qualif pour Athènes, en fait, pour expliquer le contexte vite fait. Je viens de passer mon bac avec 2 ans de retard. Donc, je ne suis pas une étoile de ce niveau-là, mais je passe mon bac avec 2 ans de retard en 2003. Et je dis à mes parents, l'année prochaine, il y a les Jeux d'Athènes. Je suis sûr que je peux faire quelque chose parce que je suis allé 8e, 10e sur 100 mètres nage libre au niveau français. On espère qu'ils en prennent 6 pour le relais, pour Athènes. Et voilà, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Je vais prendre une année sabbatique parce que l'école que je voulais faire, en fait, avant même que je passe le bac, c'était une IUT. Je reçois les résultats. Ils me disent, bon, bah, même si tu as ton bac, on ne te prendra pas, en fait. Donc tu vois le truc vachement encourageant et là tu passes ton bac à 20 ans, 2 ans de retard, bref, je fais pas un dessin. Je fais tout pour me qualifier au jeu, donc je prends mon année sabbatique et puis mes parents m'ont dit tu fais ok pour mettre tes études entre parenthèses, mais tu fais pas rien. Et on veut que tu fasses quelque chose à côté. Donc j'avais passé mon BNSSA, je surveillais la piscine entre les 2 entraînements, je passais 12 heures au bord du bassin, parce qu'il fallait aussi que je gagne ma vie, parce qu'ils pouvaient pas m'assumer financièrement. Donc cette année-là, je commence une formation, la formation du BESAN, maintenant qui est le BP, le DE, pardon. Et enfin, c'est le cumul des deux, BP, DE. Ouais. Et cette année-là, en fait, en mois de décembre, janvier, je me sens fatigué, comme je te dis, je me sens à l'entraînement. D'habitude, je suis à côté de mes potes, voire un peu devant. Et puis là, je suis 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres derrière et j'en peux plus. Et donc, j'ai passé une prise de sang et on me diagnostique une toxoplasmose et une mononucléose. Donc c'est un truc qui te vide complet en fait. Tu vois, je mangeais bien, je dormais bien, en dehors de l'eau c'était super. Et puis là, à l'entraînement, il n'y avait plus personne quoi. Mais un truc de dingue. Et petit à petit, c'était pas une 6, une 8, c'était une 15, une 17 que je nageais. Alors j'avais l'impression de faire un effort d'une 2 quoi. Donc vous imaginez, 20 fois 100, départ une 30, d'habitude tu nages une 2, une 3, etc. Et là tu nages une 12, une 15, une 17. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est au mois de janvier, la qualif elle est au mois d'avril. Là où je veux juste en venir, c'est Denis, mon entraîneur, il me dit ce qui compte, c'est l'effort en fait, c'est pas le chrono que tu vas faire. C'est l'effort. Et ça veut tout et rien dire en même temps. C'est-à-dire, ouais, ben, une 15, moi je force, je suis bleu, j'arrive plus à mettre un bras derrière l'autre. Il me dit, ça te servira toujours. Ok, je le crois, on fait ça, on part au championnat. Je me qualifie dans la finale et je termine 7e à 17 centièmes du 6e. Et là, je vais pas au jeu. Pour remuer le couteau dans la plaie, c'est que 2-3 mois après, il y a toute l'équipe de France qui vient s'entraîner à Marseille et je les vois s'entraîner à côté de moi. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Je dis, moi, je suis sûr que j'ai ma place là-dedans en plus. Je suis sûr que j'ai ma place. Et en fait, le fait d'avoir vécu ça, c'est. Grosso modo, j'ai senti en même temps de l'injustice parce que je sentais que j'étais capable de faire quelque chose qui était à ma portée, mais je ne l'ai pas fait. Et puis la seule façon d'aller chercher cette équipe de France et d'aller chercher cette qualif, ben, c'était de retravailler encore et encore. Et finalement, j'ai eu une perception à partir de ce moment-là de l'effort qui était complètement différent, quoi. Alors bien sûr, je me suis encore plein derrière. C'est de dire, ah, j'ai mal au bras et j'arriverai jamais, et c'est trop dur, etc. Et en fait, à tomber dans ce vice-là, c'est pas du tout positif en fait. Donc moi ce que j'ai aimé, c'est hier en fait j'ai vu certains d'entre vous arriver au bout d'une série, ça piquait un peu, j'ai vu des visages fermés, mais j'ai vu des sourires en fait. Non, j'ai vu des sourires malgré tout. Et ça, il faut que vous le gardiez, quoi. Vous vivez une période de votre vie qui est tellement courte, mais qui est tellement intense. Ok, vous avez mal au bras, c'est dur, c'est compliqué, vous échouez, etc. N'abdiquez pas, ne baissez pas les bras, mais c'est pas la fin du monde pour autant. Hein. Le soir, vous allez vous coucher, le lendemain matin, vous allez vous réveiller et c'est reparti pour un nouveau jour. Donc, c'est une façon de vous dire de profiter de chacun de ces moments, même s'ils sont durs. Et vous savez quoi, au plus c'est dur, mais au plus les petites victoires que vous allez faire, que vous allez concrétiser, les petites secondes, les petits centièmes que vous allez progresser, qui un jour vont faire toute la différence, et ben vous direz, putain, ça valait vraiment le coup de faire ça. Donc vous êtes là, vous êtes au cœur du sujet. C'est vous qui êtes acteur de votre vie, de votre projet. Vous avez tout le staff autour de vous qui essaie de réfléchir avec vous. Tout est perfectible, tout. Que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur le timing, que ce soit sur les compètes, que ce soit vous. Donc allez-y vraiment sans retenue. Je vais savoir si si pour vous, pour combien d'entre vous il y a un double projet derrière tout ça, enfin, c'est-à-dire projet scolaire à côté. Est-ce qu'il y en a qui vont plus en cours là, du coup je ne me rends pas compte. D'accord, t'es seul?
Non, il y a...
on est deux.
D'accord. Et vous avez arrêté quand?
Enfin, moi je passe à BPJEPS.
D'accord.
Enfin.
T'as eu ton bac ou pas? Attends,
non.
D'accord.
Non plus.
D'accord. BPJEPS aussi ou pas?
Après, parce que là je fais BNSA et BFA.
D'accord. Mais ça, c'est assez clair ou c'est en fonction de comment ça va
évoluer?
Tous les autres, vous avez un cursus ou un double projet? D'accord. Ça, c'est très, très important. Ne faites pas comme moi, parce que ou d'autres. Prendre comme exemple, on mise tout là-dessus. Alors, c'est très chronophage, hein, l'entraînement, les stages, les compètes, etc. C'est toujours important d'avoir une porte de sortie pour quoi que ce soit. Ah, il y en a qui se lancent corps et âme là-dedans. Et puis, voilà, je touche du bois, je souhaite à personne. Vous montez les escaliers, vous faites une cheville la veille de la qualif. Qu'est-ce que vous faites? Ok, j'ai bousillé ma saison. Derrière, j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience professionnelle. Pour moi, c'est très, très important. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de sensibiliser là-dessus. Et des fois, alors il y a des gamins qui me posent des questions, ils me disent « Ah oui, mais on gagne de l'argent en natation, etc. » Alors je leur dis tout de suite, et je leur dis « Écoute, si tu veux gagner de l'argent, fais pas de la natation en fait. » Par contre, si tu es bon dans un domaine, que ce soit dans la natation, que tu sois chef d'entreprise ou que tu fasses un truc dans lequel tu es bon, un jour tu gagneras ta vie, mais il faut pas prendre les choses à l'envers. Alors, je pense qu'il y en a certains qui se trompent et qui se laisse un peu miroiter un bel avenir derrière. Et puis quand bien même vous arrivez à atteindre vos objectifs, vos résultats, il y a toujours quelque chose à faire de mieux, de plus, derrière, que ce soit dans le sport ou surtout dans la vie. On a la chance d'avoir un système qui évolue un peu, où on valorise de plus en plus les compétences. Les entreprises sont curieuses de pouvoir recruter des sportifs de haut niveau. Et puis moi, je prône vraiment aussi pour le fait que la natation, c'est quand même un sport qui est très exigeant très tôt, très jeune. Pour être sur les listes, il faut déjà se lever tôt comparé à d'autres sports. Hein. C'est ça qui est un peu frustrant, mais bon, on va pas être là pour comparer la natation, le rugby, le hand ou le ping-pong. Hein. Mais j'ai rien contre le ping-pong. Mais on en rediscutait encore une fois ce matin. C'est un investissement de tous les jours de nager. Il faut que vous en soyez fiers, il faut que vous soyez convaincus que vous êtes capable de faire mieux que ce que vous faites actuellement. Mais pour faire mieux, il faut s'y attacher tous les jours. Tous les jours, tout le temps. Fatigue, pas fatigue. Contrariété, pas contrariété. Voilà. On dit que c'est des sacrifices. Moi, je vois plus ça comme des concessions. C'est des choses que sur une période de notre vie, on met entre parenthèses, on les rattrape après. Ouais, ben moi je suis pas sorti, j'ai pas fait la fête. Pendant que j'avais des copains qui le faisaient un peu plus souvent, d'autres qui le faisaient moins. Chacun vit le sang comme il peut. Je dis juste que j'ai mis ça entre parenthèses. Je pouvais pas prétendre l'année des Jeux, 2007-2008, je pouvais pas prétendre être le meilleur et faire la fête tous les week-ends. C'était juste pas compatible. Faut juste en être conscient. Maintenant, je dis pas que ça a pas changé ma vie. Si, ça l'a changé parce que je suis convaincu qu'en ayant cette rigueur, en fait, ça a contribué à mes résultats. Et puis, je vous cache pas que voilà, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai eu le temps de faire la fête. Et je l'ai peut-être plus apprécié à 30 ans qu'à 17 ans. Donc, voilà, chaque chose en son temps. Parce que c'est bien de passer de bons moments, etc. Mais c'est pas compatible. Il y a une prise de conscience aussi qui est importante, mais là je pense que vous l'avez déjà prise, vous êtes en train de faire, et moi c'est arrivé assez tardivement. C'est arrivé quand j'ai quitté Marseille pour aller à Antibes, j'avais 23 ans donc, et alors ça nous a forcément servi avec Denis d'avoir un nouveau cadre d'entraînement, un nouvel environnement, des nouvelles installations, etc. Parce que vous savez, c'est assez routinier, donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau, de frais, de neuf, ça fait quand même du bien. Et en fait, je me suis dit, mais attends, là, j'arrive à Antibes, je suis finaliste européen, j'ai nagé 49-2 sur des championnats d'Europe, que ce soit au relié, en série, en demi, en finale, etc. J'ai pas eu de podium, mais bref, je pointe le bout de mon nez sur la scène internationale, enfin, à 23 ans, quoi, première équipe de France A. 23 ans, je me dis, bon, il était temps. Et un soir, je suis chez moi, et en fait, je sais pas, c'est un peu mon délire, hein, ma façon de réfléchir. Je regarde les étoiles. Moi, je réfléchis souvent en regardant les étoiles. Chacun a ses centres d'intérêt. C'est ma façon de m'échapper et de me dire qu'en fait, dans ce bas monde, on n'est vraiment pas grand chose. Et avoir mal au bras, ou avoir des soucis, ou avoir se plaindre, je me dis que ça ne me correspond pas. Parce que. J'ai la chance de vivre de ma passion. C'est moi qui l'ai choisi. On ne m'a pas forcé. Je suis maître de tout ce que je fais. Mais j'ai envie de faire mieux. Et donc, dans ma façon de m'échapper, je me dis juste... mais en fait, tous les autres là qui arrivent, qui sont en finale des Euros, des mondes, des Jeux, qui sont sur les podiums, en fait, ils ont juste deux bras, deux jambes et une tête comme moi, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils arrivent juste mieux à s'en servir que moi, en fait. Aujourd'hui, j'ai un corps, il est ce qu'il est, j'ai des avantages, des inconvénients. Ma force, c'est ma vitesse de déplacement, ma faiblesse, c'est ma souplesse, je suis très raide, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça? Je connais tout ça, je connais mon corps, je connais tout depuis des années. Je me dis juste, à ce moment-là, je réalise, c'est un an et demi, deux ans avant les Jeux, je me dis, il n'y a rien ni personne qui va m'empêcher d'essayer de devenir le meilleur. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'allais devenir le meilleur, je ne sais pas quand est-ce que ça allait arriver. J'étais juste convaincu d'une chose, j'étais convaincu que j'avais finalement tout à portée de main, que ce soit mon entraîneur, que ce soit les installations, que ce soit les conditions d'entraînement, j'avais tout pour y arriver. Et qu'importe ce qui se passait dans ma vie, dans mon environnement, dans mon entourage, il n'y a qu'une chose qui comptait, c'était ça. Et je savais que j'avais l'énergie, les ressources de m'y engager pleinement et que c'était le moment. Si j'avais réfléchi à ça peut-être 2 ans, 4 ans auparavant, ça aurait été sûrement prématuré. Ce serait arrivé, je pense que ce serait arrivé un peu trop tôt. Et puis là, c'était le bon moment. C'est de dire, ok, je suis parmi les 8-10 meilleurs nageurs européens, et puis les chronos que je fais, je suis sûr que je peux faire beaucoup mieux parce que je m'y prends mal sur mes courses. Donc il y a plein de petites choses qui me font penser que je peux vraiment concrétiser tout ça. Et cette phrase, elle a conditionné, mais elle a conditionné tout le reste de ma carrière, quoi. J'ai eu des contrariétés personnelles dans ma famille, perdu quelqu'un de ma famille, mais ça m'a pas. Égoïstement, je me suis dit, je pense à moi, je pense à ma gueule. Je fais ça. Il y a rien qui va m'empêcher de faire ça. Vous voyez, c'est un projet sportif qui devient un projet de vie, quand même. C'est un projet de vie, il faut que vous soyez conscient que au plus vous avancez, d'aujourd'hui à 2022, 2023, 2024, et bien de plus en plus ça doit conditionner tout. tout votre comportement, votre attitude, votre engagement. Et il n'y a que comme ça que vous saurez vous découvrir vous-même, en fait. Vous voyez, quand j'avais 15 ans, si on m'avait dit qu'un jour je prendrais la parole devant 300 personnes avec un micro et parler de mon expérience ou parler, j'ai dit, mais vous êtes malade, jamais de la vie je ferais ça, quoi. Moi, j'étais tout grand, tout maigre, j'étais introverti, j'étais renfermé. Et puis en fait, ça, tout ce parcours, ça m'a juste permis de devenir celui que j'ai toujours voulu être, en fait. Je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui aime parler, je suis quelqu'un qui aime partager, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Et j'apprends tous les jours, on apprend tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Mais des fois, on arrive à des moments où on pense connaître beaucoup de choses, on pense savoir beaucoup de choses sur tout. Et puis un jour, il arrive un événement et ça nous fait tout foutre en l'air. Soyez curieux, soyez ouverts, discutez entre vous. Et moi, je veux juste que vous soyez contents de faire ça, en fait. Je pense que vous êtes conscients d'avoir, de réaliser que vous êtes dans ce collectif, pas par hasard. Mais voilà, il reste beaucoup de choses à faire. Et si vous n'y allez pas avec du cœur, avec de l'envie, à chacun des entraînements, sur chacune des longueurs, à chaque mouvement que vous faites, vous ne vous découvrirez pas vous-même, en fait. Il faut essayer qu'il y ait le moins de pertes possibles dans un entraînement. Il y en aura toujours. Ok, des fois, c'est l'échauffement, la récup, les jambes. Des fois, il y a des choses qui passent à l'as. Et bien, au plus vous allez avancer, il faut que vous sortez de l'entraînement en disant « Ok, je pense avoir tout bien fait. » Quand même, ce ne sera pas le cas. Il y aura plein de choses à parfaire. Mais pour moi, je suis convaincu que il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Il n'y a que comme ça que vous pouvez aller au bout de vous-même et encore vous surprendre parce que vous avez un niveau de performance aujourd'hui qui est ce qu'il est. Et vous avez tous des marges de progression plus ou moins grandes. Donc croyez en ça, croyez en vous, quoi. Est-ce que vous avez une vision assez claire sur ce qu'il faut que vous progressiez, les uns ou les autres? Est-ce que c'est les départs, c'est les coulées, c'est la propulsion?
Oui.
Est-ce que vous savez à peu près? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu dans le flou, qui ont du mal à savoir sur quoi il faut progresser? Non. Vous savez à peu près sur quoi progresser?
Ouais.
Si j'en prends un, deux, trois au hasard, vous allez me dire...
Ouais.
Léon, il faut que tu pourrais sur quoi?
Les virages.
Les virages?
Ouais.
C'est vraiment...
Et le dos.
D'accord.
Il y a deux trucs. Mais...
Sur quoi il faut que tu progresses?
Le virage aussi.
Ouais. Et ça, comment vous y prenez? Est-ce que vous en discutez, par exemple, de ce que vous pensez sur quoi il faut que vous progressiez? Est-ce que vous en parlez avec vos entraîneurs, concrètement, entre quatre
oui,
yeux
oui, oui.
Ou est-ce que c'est... Je suis curieux, tiens, aussi de comprendre, est-ce que vous faites des entretiens avec vos entretiens? Alors, c'est un bien grand mot, mais est-ce que vous arrivez à vous poser avec votre entraîneur? Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de lui?
Ça vient des deux.
Ça vient des deux. Vous arrivez à provoquer des moments d'échange comme ça?
Ouais.
Ça arrive tous les... Est-ce qui c'est qui ne l'a jamais fait, par exemple? Discuter en tête à tête avec son entraîneur. Bon. Pendant combien de temps? Ça peut durer longtemps?
Ouais.
Combien? 5 minutes.
Non, ça peut... ça peut durer une demi-heure, quoi. Vraiment.
Ça peut durer une demi-heure?
Mais c'est...
Ouais. D'accord.
C'est pas réglé.
Est-ce que vous êtes demandeur de ça? Enfin, est-ce que ça vous fait du bien aussi de comprendre, de vous faire entendre? Oui, ouais, non ouais, ça ouais, vous est égal? Non. Ça vous est pas égal?
Non. Dans mon exemple, moi, c'est moi qui vais vers le coach et demander bah, écoute, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait rentrer?
D'accord.
Quoi, par exemple.
Et il arrive à te répondre à la hauteur de tes attentes ou...
Oui et non.
D'accord.
Ça dépend de ce que je demande.
Qu'est-ce que, grosso modo, vous êtes avec votre entraîneur depuis combien de temps en moyenne? C'est 2 ans? C'est 4 ans? C'est 1 an?
2 mois.
Qui c'est? Ça fait 2 mois? Oui. Ça, c'est le plus récent. Les autres, ça fait au moins 1 an ou 2? Au moins?
Large.
Vous savez que ça fait plus de 5 ans, 6 ans, par exemple. D'accord. plus en prénom déjà.
Toi, tu m'as le
D'accord. Ouais. C'est ton même en prénom depuis.
Ouais, depuis 6 ans.
Ouais, et tu as 7, 18. 18. Depuis que t'as 12 ans, quoi.
Ouais.
D'accord. C'est beau ça, toi aussi.
Depuis 8 ans.
D'accord.
À Avignon.
Le même
avec
Jean-Michel. Et moi je me suis entraîné 15 ans avec Denis. Et je vous cache pas que ça a été compliqué. Alors des fois dans les conférences, j'en rigole, je dis que c'est ma plus longue relation, et c'est vrai quoi. Mais c'est avec lui que j'ai été plus fidèle. Mais je suis convaincu que même au bout de 3-4 ans, en fait, on discutait pas assez. Et aussi bien lui que moi, on n'est pas du tout bavard à la base, on n'est pas à sourire, etc. Qu'aujourd'hui, là, c'est devenu mon meilleur ami, mais pendant qu'il m'entraînait, c'était mon entraîneur. C'était pas mon grand frère, c'était pas mon deuxième père, quand même il m'entraîne depuis 10, 12, 14 ans. Il y a toujours eu cette distance en fait qu'il a voulu instaurer. Et heureusement, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais la première fois qu'on a trinqué, c'était après mon titre olympique en 2008. Quoi. Ça faisait 10 ans qu'il m'entraînait. On n'avait jamais trinqué un verre ensemble. Quoi. Et encore, c'était bravo, félicitations, chin, et puis chacun se barre de son côté. Et c'est quand même fou, quoi. Enfin, tu te dis, on a construit un truc pendant 10 ans. Mais c'est des choses qu'on a mis entre parenthèses. Voilà, parce que c'était très important qu'il y ait ce sentiment aussi de subordination, enfin, de respect de l'ancien, tout simplement, en fait. Je dis ancien, et on a 13 ans d'écart, mais pour moi, c'est un ancien, et c'est quelqu'un à qui je dois le respect, comme tout le monde, quoi. Et finalement, il a provoqué ces moments d'échange qui nous a aidé à avancer. Parce que vous imaginez qu'à un moment donné, ok, on fait plus. Et ça, c'était ma façon de me rebeller, c'est de dire, attends, tu me demandes de faire plus de kilomètres, de faire plus de qualité, de faire plus de choses autour de l'entraînement, les étirements, la récup, les massages, les kinés, l'ostéo, nutritionniste, le psy, etc. J'ai dit, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quoi. Et j'étais assez rebelle, on va dire. Et puis, en fait, en discutant l'un avec l'autre, on s'est de plus en plus confiés, et il a compris certains de mes comportements par rapport à ce qui me passait, et ce qui se passait aussi dans ma vie perso, quoi. Je n'avais pas à lui raconter les moindres détails, mais ça pouvait permettre de comprendre certains comportements à l'entraînement, quoi. J'imagine que vous avez tous aussi des contrariétés. Des fois, vous arrivez à l'entraînement un matin ou un soir et vous êtes moins là, moins présent, moins impliqué. C'est pas facile de se mettre vraiment à 200% sur chacun des entraînements. Et si votre entraîneur il est capable de comprendre ça, je pense que ça peut que être productif. Et de dire, ok, aujourd'hui, il va peut-être un peu me lâcher la grappe parce que je vais être capable de lui dire qu'à la maison, il se passe ça, que... voilà, que j'ai des contrariétés, qui pensent pas que j'y vais en dilettante et que je l'écoute pas et que je suis têtu, quoi. Vous voyez, c'est important aussi de s'ouvrir, de communiquer là-dessus. Maintenant, je sais pas, et c'est pas du tout, je veux pas du tout savoir ce que vous vous dites, etc. Mais ce sont des choses qui sont productives, qui sont constructives pour la performance. Vous voyez? Alors, il y en a qui parlent peut-être plus facilement que d'autres. Il y en a qui sont assez ouverts, il y en a ceux qui sont fermés surtout, qui doivent communiquer. Et enfin, sur le... Qui c'est qui passe son BP dans BP-JEPS, là? D'accord. Est-ce que vous apprenez des choses sur l'entraînement?
Moi, je fais haltérophilie muscu.
D'accord.
Du coup,
mais t'apprends des choses de ce qui t'est demandé en exercice.
Bah ouais. Quel muscle ça travaille. Et
tu le fais depuis quand là? Depuis septembre ou l'année dernière?
Depuis le 4 octobre.
D'accord.
Non, mais je suis pas allé en cours en fait. Il y a un mois où j'avais...
Mais t'as appris des choses? Non, t'as pas été en cours.
Non, j'ai pas été en cours. T'as rien
appris. Toi aussi, tu fais MBP.
Ouais, moi, depuis. Mais je suis inscrit. D'accord. Et genre, ils m'envoient des cours.
Le BF1, BF de l'année dernière, et là, je finis le petit truc, le dernier UCL.
Donc, est-ce que t'as appris des choses sur l'entraînement, sur la planification,
Ouais, beaucoup de choses. Et oui. Plus pour le niveau en dessous, plus les gamins et les enfants.
Oui. Mais c'est...
Après, j'ai vu, ça me... Ouais, j'ai vu aussi...
Est-ce que tu arrives à le transposer, de ce qui t'est demandé? Non, pas encore.
Pas encore à moi-même, mais j'arrive à savoir un peu des fois.
D'accord. Moi, ce que je dis, ce qui est fascinant, en fait, dans la natation, c'est que ce qu'on apprend à faire tout petit, il faut juste essayer de le faire de mieux en mieux durant toute la carrière, quoi. Quand on est petit, qu'on apprend à nager, on apprend à être à plat sur l'eau, on apprend à respirer au bon moment, on apprend à avoir une bonne traction de bras. Et puis, en fait, voilà, il faut juste parfaire ces trois fondamentaux pour être très performant. Regardez, hier, enfin, je fais un blocage sur lui, mais je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça fascinant, quoi, de voir Romanchuk qui nage à 23 coups de bras. Et qui en fait pas deux travers d'affilée. Ça interpelle quand même. T'as juste envie de faire comme lui, quoi, en fait. T'es sûr, enfin. Alors après, bien sûr, il n'a pas des 400 à faire, des par ça, et puis du sprint, et puis des jambes, etc. Mais au moins, c'est ce qu'il fait. Il est concentré là-dessus. Et vous, la complexité, c'est que, par exemple, si on compare l'entraînement que vous avez hier, ben, vous avez d'autres objectifs, avec des temps de départ, avec des modalités de nage, etc. Mais qui doivent être tout aussi exigeantes, en fait, ces objectifs-là. Vous devez être assez exigeant avec ça. Donc, quand j'ai passé mon BESAN et mon BE2, j'ai appris énormément. Et c'est marrant, on en parlait tout à l'heure avec un certain Jean-François Bigrel. Il est intervenu ou pas? François Bigrel, il est intervenu devant?
Avec
les filles ou avec non, les coachs?
Avec les coachs. Avec les coachs.
Avec les coachs. Bref, pendant ma formation du BE2, il y avait un formateur qui nous a interpellé sur la performance. Avec une approche très philosophique. Et je ne vous cache pas que moi et la philosophie, ça a toujours fait 18. Et en fait, il était capable de tout remettre en cause. Tu penses faire ça bien, tu penses le faire du mieux possible, tu penses avoir telle perception, et bien tout est discutable. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'est que comme tout est discutable, bien, tout est propice à communication. Ok, mais moi je pense que la musculation, il faut faire 10 fois... à 80%. Ah bon, ben moi je pense qu'il faut faire 5 fois 90. Et pourquoi? Et que ce soit pareil à l'entraînement. Et vous voyez, c'est quand vous amorcez ces discussions, ces échanges, ça peut que vous enrichir. C'est-à-dire, attends, mais lui il pense ça. Et puis en fait, moi ça fait des années que je suis convaincu que ce qu'il faut faire c'est telle méthode, telle façon. Et puis pourquoi est-ce que lui il pense ça? Et finalement, est-ce qu'il aurait pas un peu raison? Est-ce que moi j'aurais pas plus raison que lui, etc. Et finalement, ces échanges, ces discussions un peu sur tout ça, ça peut que vous être productif, en fait, bénéfique. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous parlez entre vous d'entraînement, de muscu, plus profondément, ou avec vos entraîneurs. Oui, non ?
Entre nous, vous, et l'école.
Entre vous, quoi, sur l'entraînement, sur la muscu ?
Sur l'entraînement.
Pourquoi ? Est-ce que c'est un peu chasse gardée? Tu n'as pas envie aussi de tout divulguer ou...
Non, bien sûr.
Est-ce que ça existe, ça?
Le secret.
Non, mais c'est vrai.
Bah oui.
Ça existe toujours. Des quoi?
Technique secrète. Bien sûr, la technique secrète.
Tu peux balancer des faux trucs aussi, quoi. Putain, j'ai fait ça il y a deux jours, l'entraînement et tout.
Ah non, c'est pas bien mentir.
C'est pas bien mentir.
C'est pas mentir, c'est pas bon
genre. Toi, tu le fais pas?
Non, mais je pense aussi que quand on est entre nous, on a envie de parler d'autre chose que de l'entraînement.
Oui, et vous passez beaucoup de temps dans l'eau et vous parlez d'autre chose, quoi.
On a déjà passé 5 heures dans l'eau, puis on est en muscu, on a plus envie d'encore parler de l'entraînement.
Carrément.
On parle de ping.
Ça va, Richard?
Ça met des gros.
Et oui, donc vous parlez d'un peu de tout sauf de natation, quoi. Ouais, c'est un peu le but aussi. Mais c'est important de couper. Alors, moi par exemple, chez moi il n'y avait aucun truc de natation, ni médaille, poster, truc. Enfin, alors oui, jusqu'à 15 ans, 16 ans, je pense comme beaucoup des posters, des trucs comme ça. Mais après, quand je rentrais chez moi, il y avait tellement de natation que je voulais pas qu'il y ait de natation chez moi, tu vois.
Ouais.
C'était un autre truc. Donc je vois ce que tu veux dire, et c'est que ça fait tellement partie de votre vie qu'il faut aussi avoir ces échappatoires, ces passions communes, respectives, quelles qu'elles soient, pour pouvoir prendre du recul aussi un peu sur tout ça. Manger natation, vivre natation, dormir natation, ça a forcément ses limites. Comme dans tout secteur, c'est...
C'est clair.
Hein?
La même chose pour l'entraîneur.
L'entraîneur aussi.
Eh oui.
Il faut qu'il voit autre chose.
De temps en temps, il faut qu'il puisse s'échapper aussi.
Mais oui.
Ah oui.
Vous êtes tous à 10 fois par semaine en soi?
Non.
Ça va de 7, non. Il y en a qui s'entraînent 7-8 fois, on m'a dit. 6-7 fois.
Ah oui.
D'accord. Depuis longtemps?
Ça fait 3 ans.
D'accord. Tu n'ajoutes déjà?
On peut y aller.
Oui. 6-7 fois. Et combien de... Ouais, mais non, les kilomètres, on va pas comparer. Parce que...
Ça met dans le cœur, ça.
C'est une spécialité, quoi. Moi j'ai presque envie d'instaurer une règle de dire ceux qui s'entraînent plus de 6 fois par semaine ils sont dopés quoi. Non mais voilà, c'est un sport qui est très chronophage et s'il faut s'entraîner 6 fois, 8 fois, 10 fois, c'est que c'est pas un hasard aussi, il faut gérer tout ça quoi. Il y en a qui... Après c'est injuste, hein. Il y en a qui s'entraînent un peu moins et qui sont plus performants le jour J et voilà, mais ça c'est la vie. Hein?
Ça dure qu'un temps.
Ça dure qu'un temps, en principe tout se paye. Si t'arrives à être patient, mais patient dans le sens, patient dans la construction de la performance. Vous voyez, si moi à 21 ans, je m'étais dit, bon bah j'ai aucune chance, puis c'était... 21 ans, 22 ans, c'est un âge assez avancé, quoi. Tu dis, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Je suis même pas en équipe de France. Puis voilà, un peu têtu, quoi. Moi, j'ai toujours raison tant que j'ai pas tort. Donc, comme mon entraîneur, c'était la même chose, on a réussi à transformer ça de manière positive. Mais je suis sûr qu'à certains moments, ça m'a joué des tours. Ça m'a joué des tours. Et puis, voilà. Enfin, une dernière chose que je voulais aussi vous mettre... partager, mettre en garde, parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout imaginé à un certain moment, et heureusement j'ai réussi à mettre des choses en place sur la gestion de l'environnement sportif. Ok, pour vous donner un ordre d'idée, 2007, championnat de France, j'ai réalisé deuxième meilleur chrono du 50 et du 100 mètres, deuxième meilleur perf mondial, 21-7, 48-12, et on est une saison avant les Jeux. Donc là, on est en juin 2007. Et je sais qu'en avril 2008, il va y avoir la qualif pour les Jeux, etc. Et à la rentrée 2007-2008, là, sur la saison olympique de Pékin, mon entraîneur, il me voit vachement douter. Enfin, je sais pas, je me dis, mais attends, Denis, quand je regarde tout ce que j'ai fait depuis l'âge de 4 ans où j'ai appris à nager, là, j'ai nagé 48 heures. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Enfin... où est-ce que je peux grappiller des choses pour faire mieux que 48-1, quoi, qui est à ce moment-là la deuxième perte de tous les temps? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et finalement, il a trouvé un truc super pour m'expliquer ce qui me séparait finalement de ce chrono-là, du record du monde de l'époque, qui était 47-84. Il prend le chrono de la course le record du monde de VDH, donc ce nageur hollandais, et puis... il fait un grand tableau où il décortique ses nombres de coups de bras, son passage aux 5 mètres, aux 10 mètres, aux 15 mètres, le temps de rotation, la coulée derrière, etc. Et en dessous, il met ma course de 48-12. Donc 48-12, 47-84. Voilà, c'est pas énorme, hein, 3 dixièmes. Hein. Et puis, il arrive à la conclusion où il me dit, bah, tu vois, ce qui te sépare du record du monde, c'est 1 cm par mouvement. Aujourd'hui, ton 48-12 par rapport au 47-84. C'est 1 cm par mouvement par rapport à ce que tu fais. Je dis, mais c'est un truc de dingue, quoi. Enfin, quand tu réalises que tu es là, tu as l'impression d'avoir été au bout de toi, au bout de ta performance, tu réalises ton meilleur temps que tu n'étais même pas capable d'imaginer 2 ans avant. Et puis tu sais qu'il te manque 1 cm pour aller grappiller un record du monde. Enfin, là, c'est un truc de dingue. Et c'est sa façon dont il me l'a exposé. Je pense que s'il me l'avait dit comme ça, même pendant une discussion, même entre quatre yeux, ce serait pas aussi bien passé qu'avec...
un support.
Ouais, ce support, c'est un moyen de partager ça. Et donc, un peu grande gueule que je suis, j'ai dit, bon, ben écoute, on va pas travailler pour 1 cm, on va travailler pour 3. Au pire, il en restera 1,5, quoi. Bien sûr. Donc là, on est en septembre-octobre 2007. Mars 2008, Eindhoven, record du monde en demi-finale, record du monde en finale le lendemain.
et le surlendemain aux 50 nagibles. Et en fait, là où je veux en venir, donc ça c'était juste un moyen de partage d'informations, mais là où je voulais vous mettre en garde, c'est que je vous souhaite vraiment de vivre un truc comme ça, parce que c'est juste extraordinaire. Il faut un petit peu l'anticiper et s'y préparer. Donc au sortir de ces championnats où j'avais fait 48-1 et 21-7 à Saint-Raphaël, au championnat de France, on avait mon entraîneur, il me dit bon, je commence à recevoir des coups de fil de journalistes, de ci, de ça. Il me dit bon, je ne vais pas réussir à tout gérer, il faut que tu prennes un agent, un truc comme ça, quoi. Et là, je me dis mais comment ça, moi un agent, je nage parce que j'aime ça, qu'est-ce que je vais avoir un agent, un avocat? Et je pense qu'on a bien fait d'anticiper ça, parce qu'au retour d'Eindhoven au championnat d'Europe, ça a été médiatiquement, ça a été un truc de dingue en fait. Ça a été un truc de dingue que si je n'étais pas protégé par cette cellule que j'avais mis en place, donc avec mon agent, mon avocat, parce que bien sûr c'est à partir de ce moment-là, il ne faut pas se leurrer, que je commence à bien gagner ma vie, quoi. Donc jusqu'à présent c'était du bricolage, c'était des petites pistes, des trucs, etc. Et à partir de ce moment-là, je commence à très bien gagner ma vie, mais je suis pas encore qualifié au jeu. Je suis beau être recordman du monde, je suis pas qualifié au jeu et il faut rester hyper concentré, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai atterri à Charles de Gaulle sur vol retour. Il y avait 300 personnes qui m'attendaient à l'aéroport. J'avais vu ça à la télé pour l'équipe de France. De foot, de hand, etc. Bon, ils étaient des centaines, peut-être des milliers. Et moi, il y avait entre 200 et 300 personnes qui étaient venues rien que pour me voir une demi-seconde à l'aéroport. Je me dis, mais c'est un truc de malade. Et ça peut vite faire disjoncter quand même. Ouais. Et je vous souhaite de vivre un truc comme ça, parce que ça voudra dire que vous avez atteint un niveau de performance extraordinaire. Mais il faut savoir s'en protéger. Mais à qu'importe les niveaux. Oui, même, enfin, je vois Léon quand même, il se passe beaucoup de choses aussi. Tu as été beaucoup médiatisé, relayé, etc. C'est super.
Moins quand même.
Moins ouais. Mais ça donne un avant-goût.
Si je peux me permettre, c'est peut-être l'occasion. Je pense qu'il y a une attente collective forte. Il a dû vous faire un petit peu, peut-être, un petit peu d'historique de la natation française, vite fait, je ne sais pas, à travers son histoire, peut-être. Mais bon, il a fait partie d'une génération où il y a eu énormément de résultats. Aujourd'hui, ils sont un peu plus en berne, les résultats, il y en a un petit peu moins. Donc, il y a une grosse attente collective, Léon et les autres. Hein. Donc, on attend beaucoup, beaucoup de vous. Et je crois que le témoignage d'Alain, là, il prend tout son sens aujourd'hui. Il faut que ça, vous viviez l'événement et vous viviez votre pratique pour vous, et pas uniquement pour répondre à cette attente collective qui peut pour vous être un stress, mais quelque chose d'handicapant. Donc il faut, comme dit Alain, s'y préparer, parce que c'est une réalité. De fait, je vous dis qu'il y a une grosse attente collective. Paris 2024.
C'est très français, voilà. Ouais, je ne vous cache pas qu'au sortir des Jeux en 2008, je suis champion olympique, j'ai été recordman du monde, les journalistes ne peuvent pas concevoir que sur un meeting, je gagne pas, que sur un championnat d'Europe, je gagne pas, etc. Donc là, en termes de pression, d'attente, c'est quelque chose qui est juste horrible à gérer, parce que ben voilà, ça ne veut pas dire parce qu'on a réussi, et encore plus à 25 ans, d'être aussi performant entre 25 et 30 ans. Je rentre de Pékin en 2008, je vais voir ma copine à Toulouse. Je prends un avion, je prends un taxi, et le mec il me reconnaît, il fait « Oh c'est super, allez, dans 4 ans la même, quoi !» Attends, putain, on est le 20 août, là, laisse-moi tranquille, on est le 20 août 2008, qu'est-ce que tu me parles de août 2012, quoi ? Donc après c'est très français, voilà, on est fiers, quand il y a un sportif qui réussit, on s'identifie à lui, etc. Mais essayez, voilà, de vous protéger de ça, des réseaux sociaux. Vous avez une force aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer sur ce que vous faites, sur vos passions, sur vos entraînements, etc. Pour vous attirer des sponsors, des partenaires, ça c'est très bien. Construisez-vous une image qui est cohérente, qui est en phase avec ce que les gens, les entreprises attendent du haut niveau. L'engagement, le dévouement, l'investissement, l'abnégation, le partage, la transmission, etc. Ça, ce sont des valeurs qui sont chères aux entreprises, qui vont aussi vouloir miser sur vous pour vous accompagner dans ce projet sportif, que vous ayez 4 ronds pour vous démerder aussi pour construire votre projet sportif. Ça va se passer en France, il va y avoir des attentes, Eh bien, c'est pas grave. Vous avez décidé de faire ça pour être performant. D'accord ? Donc, restez centralisé, centré, pardon, focalisé sur vous, là-dessus, faites attention. Et puis, servez-vous aussi de ces expériences. Si vous, voilà, aujourd'hui, vous me croisez, donc c'est ça. Il y a Léon qui peut peut-être partager là-dessus, qu'il ait envie, enfin voilà, il n'y a aucun souci. À n'importe quel niveau, il y a des sentiments, des attentes, des pressions qui peuvent s'installer. Vous êtes cette génération-là. On a vécu une génération 2004, allez, 2000, jusqu'à 2012-2016, qui a été croissante d'un point de vue exposition médiatique. Comme l'a dit Richard, il y a un petit creux. Derrière, les journalistes vont attendre quelque chose, vont dire, mais la natation française, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, on a eu... Alors nous, on était plusieurs. Donc, à un moment donné, moi, 2008, j'étais juste après l'or, etc. J'étais un peu mis sur le devant de la scène, mais j'ai jamais voulu dire c'est moi qui porte équipe de France. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Il y a des filles, il y a des garçons, il y a des quatre nageurs, il y a des dossistes, etc. C'est une équipe. Il faut se sentir bien dans cette équipe, il faut se dire les choses. Il y a des affinités, il y a des... Je le conçois, il n'y a pas de souci. Il faut que vous fassiez corps, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de clan. Il peut y avoir des affinités, mais il ne peut pas y avoir de clan. Il ne peut pas y avoir une réussite collective s'il y a des clans, de clubs, de filles, de garçons. À un moment donné, tout le monde doit être capable d'être sur le même pied d'égalité, qu'importe le niveau de performance. Là, on parle humainement, quoi. On a eu des garçons et des filles en équipe de France qui n'étaient pas les mieux classés sur la compétition, etc., et qui ont fait un bien fou à l'équipe, de par leur état d'esprit, de par leur rigueur, de par leur engagement. Maintenant, si vous en avez 1, 2, 4, 10 qui commencent à ne pas venir à l'heure aux entraînements, de ne pas être à l'heure sur les réunions, de ne pas venir encourager l'après-midi à la piscine, oui, c'est des choses qui s'installent, qui se créent, et personne ne va oser leur dire. Et ça crée des malaises, et puis l'équipe, elle peut vite partir en live comme ça. Donc, voilà, vous avez tous vos passions, vos centres d'intérêt, votre engagement, ce qu'il est. Mais ensemble, vous irez tellement loin, vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Ça doit être votre force, ok? Même s'il y a des différences de parcours, différences de tempérament, à un moment donné, il faut mettre tout ça de côté, quoi. Il faut mettre tout ça de côté. Vous représentez l'équipe de France, vous représentez le pays, vous représentez des valeurs, vous êtes des exemples pour des jeunes qui ont 2 ans, 4 ans, 10 ans de moins que vous. Et vous allez être de plus en plus des exemples. Donc soyez exemplaires dans votre comportement, dans votre attitude. Restez vous-même, parce qu'il n'y a que en restant vous-même que vous serez capable de vous exprimer au maximum de vos capacités. Mais des fois, il y a des choses, des comportements, des trucs publiquement où il faut se retenir, quoi. Voilà. Je ne vous cache pas que j'ai eu envie d'étaler des choses des fois, et puis ça n'aurait pas du tout été bien placé, bien vu. Et ben voilà, pourtant, j'en pense pas moins, quoi. Je sais qu'il y en a qui auraient mieux fait de se taire à certains moments, parce que ça a créé des tensions dans les équipes. Et c'est bien dommage, quoi. C'est bien dommage. Donc voilà, soyez encore une fois acteurs de vos projets. Puis voilà, soyez-en fiers quand même. En tout cas, moi j'aime voir des sourires, de l'envie. Ça, c'est quelque chose qui doit rester positif. Ok ? Je ne sais pas si vous avez des questions encore. Ouais, non, on m'a dit de vous libérer à moins 15, il est moins 20. Donc. Oui, oui. Est-ce que vous avez un autre truc, un sujet vite fait ou autre chose sur quoi réagir?
Ouais, moi j'ai une question.
Dis-moi.
Quand t'as parlé de 2007 et que t'as dit que t'as fait 48 une et tout, quand tu commences ton année 2007-2008, tu t'entraînes pour la qualif ou tu t'entraînes pour gagner au jeu?
Non, à ce stade-là, je m'entraîne pour gagner. Okay. Deux ans avant, je suis dans cette logique de qualification. Avec cet esprit revanchard, entre guillemets, tu sais, au milieu de l'Olympiade, donc 2004-2008. En 2006, je me dis, bon allez, j'ai raté ma qualif de 17 centièmes. Je sais qu'aujourd'hui, je peux faire partie de cette équipe de France. Peut-être pas dans le relais, mais déjà, je commence à rêver à me qualifier en individuel. alors que je suis qu'à 2 ans des Jeux. Vous imaginez, c'est comme si vous, c'était en 2022, vous vous dites, ah tiens, je peux me qualifier aux Jeux. Mais en fait, ce rêve de je peux me qualifier, il est devenu je peux gagner les Jeux, quoi. Tu vois, c'est la nuance, elle est là. Après, j'ai fait aucune équipe de France. Quand même, Euro Junior, Foge, Championnat du Monde Junior. J'ai fait aucune équipe de France parce que j'avais pas le niveau, quoi. Comme je t'ai dit, je voyais des garçons, des filles autour de moi. Et à un moment, je me suis dit, mais putain, mais comment eux, ils font pour nager vite alors que moi, à l'entraînement, je faisais des choses correctes. J'arrivais pas à le concrétiser en compétition, quoi.
2002, ta première, c'est ça?
Les jeunes à Madrid, c'est ça. Assez épique. Une belle aventure. Et ouais, on avait fait les camps en équipe, et du coup, j'avais fait le temps pour me qualifier sur un championnat américain, enfin, ouais. US Open, je sais pas quoi. Ouais. Puis ils m'ont pas retenu parce que j'avais fait n'importe quoi. Et ouais. Non, moi j'avais pas fait n'importe quoi, j'étais dans le mauvais groupe.
Il y avait des leaders, ouais, voilà.
J'étais pas avec les bonnes personnes.
Des mauvais leaders.
C'est ça.
Qui
vous ne connaissez pas, je pense.
Non.
Bon, merci pour votre écoute.
Merci à vous.
Merci. Je ne les ai pas portés là, mais est-ce que ça vous ferait plaisir de voir les médailles des Jeux?
Oui.
Ouais. Bon, ben après l'entraînement, je vous les montre. J'ai voulu descendre après votre. Bon, merci, soyez bons, merci pour votre temps.